Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre-Yves Bournazel, député de Paris et coprésident du groupe Indépendants et Progressistes au Conseil de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre-Yves Bournazel, le président Emmanuel Macron a officialisé sa candidature pour un deuxième mandat. Il y a encore un mois, on n'imaginait pas dans quelles conditions se tiendrait cette élection présidentielle. Une guerre au cœur de l'Europe. Que vous inspire cette situation en Ukraine ?
C'est une situation terrible. D'abord pour le peuple ukrainien, qui en première ligne est bombardé, ciblé. Je suis attaché à la démocratie et aux libertés. Et le peuple ukrainien est un peuple libre, souverain. C'est une démocratie, l'Ukraine. Les Ukrainiens sont attachés à leur liberté, et ces libertés, cette démocratie, elle est bafouée par la volonté de Monsieur Poutine et malheureusement de son armée. Je considère aujourd'hui qu'il faut, dans ces circonstances dures, sur notre sol européen, faire preuve de beaucoup de sang-froid. Je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, a tout fait en amont, comme leader de la France, mais aussi de l'Union européenne, pour essayer de nouer un dialogue et éviter la guerre. Malheureusement, nous avons été toutes et tous floués. La France, l'Europe, les États-Unis, l'Alliance Atlantique et toute la communauté internationale. Aujourd'hui, il faut continuer la diplomatie, qui peut être la voie pour assurer, nous l'espérons, le plus vite possible, la paix. Mais malheureusement, c'est une voie, on le voit, extrêmement difficile, on le constate chaque jour. Et donc, il faut aussi créer du rapport de force, c'est les sanctions, notamment un certain nombre de sanctions économiques, proportionnées. C'est aussi une réponse européenne. Pour la première fois, l'Europe, le week-end dernier, a montré à la fois son unité sur le plan diplomatique et sa volonté de mettre en place une défense commune avec le sommet que réunira le 10 et 11 mars prochain le président de la République. Et donc, face à cette situation, nous devons poursuivre et amplifier nos efforts en matière de diplomatie, être très ferme sur le respect du peuple ukrainien, sur la question des libertés, de la démocratie. Et je voudrais pour conclure aussi souligner combien le président Zelensky est inspirant par son courage, sa volonté de défendre cette souveraineté et son peuple.
Pierre-Yves Bournazel, les réfugiés ukrainiens sont bien sûr les bienvenus en France.
Oui, bien sûr, parce que c'est un climat de guerre et ils participent de la Convention de Genève et nous devons les accueillir pour assurer leur sécurité. C'est une question de morale d'abord et c'est une question de respect du droit international.
Quel regard portez-vous sur les déclarations de Marine Le Pen et Éric Zemmour sur l'Ukraine et la Russie ?
Malheureusement, ils se sont fourvoyés. D'abord en manquant d'humilité pour M. Zemmour, qui nous expliquait il y a quelques semaines que jamais M. Poutine n'agresserait l'Ukraine. Quand on prétend vouloir devenir président de la République, il faut davantage mesurer ses propos. La diplomatie, c'est une politique subtile qui demande de savoir dialoguer, de savoir discerner et de savoir créer des rapports de force. Par ailleurs, peut-être de manière plus grave, ces deux candidats, ce ne sont pas les seuls, mais singulièrement Monsieur Zemmour et Madame Le Pen, ont démontré depuis de nombreuses années une certaine admiration pour Monsieur Poutine. Je crois qu'ils ont été aveuglés, car si nous devons faire jouer la diplomatie, si nous devons rechercher toujours les voies du dialogue et de l'apaisement, on ne peut pas être dupe de ce qu'est Monsieur Poutine aujourd'hui. En tout état de cause, pour moi, Monsieur Poutine choisit plutôt la voie de l'autocratie plutôt que la voie de la démocratie. D'abord parce qu'il n'a pas consulté son peuple, le grand peuple russe, une grande culture, la culture russe, pour faire la guerre. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui des Russes très courageux qui prennent la parole. Ensuite, je voudrais dire à M. Zemmour et à Mme Le Pen que tout ne se vaut pas. Et on a le sentiment qu'avec eux, tout se vaut. L'agresseur, c'est bien la Russie et pas l'Ukraine. L'Ukraine est victime aujourd'hui. Une démocratie est attaquée. Des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards meurent aujourd'hui et fuient pour d'autres leur pays. Tout ne se vaut pas. Parce que si je suis pour une France indépendante et forte, dans une Europe indépendante et forte, je le disais tout à l'heure, pour construire une politique de défense commune, une diplomatie forte sur le plan européen pour créer du rapport de force vis-à-vis de toutes les puissances, que ce soit la Russie, la Chine ou les États-Unis, tout ne se vaut pas. Car aux États-Unis, avec le défaut du système américain, un opposant est un homme ou une femme libre. En Russie, un opposant est un homme ou une femme en prison. Et donc, je pense qu'ils portent une lourde responsabilité dans la manière dont ils ont promu ce système politique et leur admiration de M. Poutine.
Pierre-Yves Bournazel, le président Macron est donc candidat pour un deuxième mandat. Sur la forme, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, une lettre aux Français qui rappelle celle écrite par François Mitterrand en 1988 ?
Écoutez, je soutiens la démarche d'Emmanuel Macron. Il ne sera donc pas surprenant que j'ai été heureux hier dans ce contexte extrêmement difficile de voir sa candidature. D'abord parce que je pense que c'est le chef d'État qu'il faut à la France, parce qu'il a à la fois l'énergie, mais aussi la solidité de l'expérience de l'homme d'État qui a traversé les crises, la crise sanitaire, la crise économique et sociale, et aujourd'hui la crise internationale européenne de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je crois que le choix de cette lettre est le bon choix, parce que c'est le choix de l'humilité, c'est le choix de la proximité avec cette lettre diffusée dans la presse quotidienne régionale, c'est le choix de l'explication du monde dans lequel on entre, dans le nouvel ordre mondial qui s'annonce bien difficile. Je pense que cette solidité, ce courage sont des atouts pour protéger les Français et pour protéger les intérêts de la France et construire les politiques publiques dont nous aurons besoin demain. Je pense notamment qu'il a mis en avant l'éducation, réforme qu'il a commencée depuis 2017, et j'en suis le témoin, dans le 18e arrondissement, où il a lancé dès 2017 le dédoublement des classes en CP et en CE1 pour donner plus aux enfants qui ont moins de capital social et culturel au départ. Et aujourd'hui, ces enfants qui étaient alors en CP en 2017, qui sont aujourd'hui en CM2, dans nos quartiers populaires, ont un niveau largement au-dessus des enfants qui les ont précédés il y a 5 ou 10 ans, et ont un niveau équivalent à des enfants de quartiers, entre guillemets, plus huppés. Et donc il faut poursuivre cette réforme de l'égalité des chances, ce soutien à l'école, revalorisons aussi le métier d'enseignant, à commencer par la question financière. Il faut donner envie d'être enseignant, c'est un métier essentiel. Je dis souvent, moi, que les enseignants sont les architectes du monde moderne, parce que c'est eux qui transmettent le savoir, qui éveillent à la citoyenneté, au civisme, qui permettent de faire société ou de faire nation. Et donc je pense que cette réforme de l'école, nous devons la poursuivre et l'amplifier, comme nous devons aussi investir dans la politique de la recherche pour la réindustrialisation de la France, sur la transformation écologique nécessaire, notre modèle de production et de consommation pour être au rendez-vous du 21e siècle. Et puis il faut un président qui rassemble et unisse. Je crois que dans une société qui est fracturée depuis de nombreuses décennies, fracture économique, sociale, territoriale, communautaire, il doit être l'homme de la nation, celui qui cherchera toujours à dépasser les vieux clivages stériles et à rassembler les hommes et les femmes de bonne volonté pour d'abord servir notre pays, d'abord servir les Français avant de servir des intérêts partisans.
Pierre-Yves Bournazel, Emmanuel Macron affirme dans sa lettre que les Français devront travailler plus. Cela signifie qu'il faudra reculer le départ de l'âge à la retraite, supprimer les régimes spéciaux. Est-ce qu'il faudra aussi revenir sur les 35 heures ?
Vous savez, nous aurons des réformes à faire sur les questions économiques et sociales, pour assurer à la fois l'efficacité économique de notre pays, le plein emploi. Je rappelle que le chômage a diminué de manière très nette malgré les crises sous ce quinquennat, parce qu'il y a eu des réformes importantes. Par exemple, on est passé de 200 et quelques mille à 700 000 apprentis par la réforme de la formation professionnelle. On a fait un certain nombre de simplifications pour les entreprises, on a baissé les impôts de production. Et en même temps, il faut assurer la cohésion sociale. C'est ce que nous avons fait dans ce quinquennat, par exemple, avec le reste à charge zéro pour les lunettes, les prothèses auditives et les prothèses dentaires pour 10 millions de Français. Ce que nous avons fait en augmentant le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé. C'est ce que nous avons fait en supprimant la taxe d'habitation pour 80% des Français et 100% d'entre eux en 2023. Il faut poursuivre et amplifier efficacité économique et cohésion sociale. Et je crois que les retraites, c'est clé. Il faut financer notre système de retraite. Et donc moi, je suis attaché à la justice sociale. Ceux qui commencent à travailler tôt doivent partir plus tôt que ceux qui sont rentrés plus tard sur le marché du travail. Et nous devons financer ces retraites-là. Et donc ceux qui sont rentrés plus tard devront partir plus tard. Et donc nous devrons progressivement reculer l'âge à la retraite. C'est une question de justice sociale également. Ce que je veux dire aussi, c'est que sur la question de l'efficacité économique et de la cohésion sociale, il faut davantage rémunérer le travail. On a commencé à le faire en baissant un certain nombre de charges sociales pour les salaires proches du SMIC. Il faut poursuivre cette politique pour permettre à des familles de revenus modestes de gagner davantage par leur travail et inciter au travail. Ça me paraît vraiment important. Nous devons continuer à le faire et je suis attaché à titre personnel à ce qu'on aille plus loin sur la question de la participation des salariés à l'entreprise, c'est-à-dire permettre, lorsqu'il y a des bénéfices dans une entreprise, aux salariés d'en bénéficier davantage qu'aujourd'hui pour, là aussi, favoriser le travail et la récompense du mérite. Je crois à l'ascenseur social qui est bloqué depuis plusieurs décennies dans notre pays. C'est par l'école, par la formation professionnelle, par une meilleure orientation, par une formation tout au long de la vie et par une récompense du travail, tout en assurant la cohésion sociale des plus vulnérables, des accidentés de la vie, qu'il faut évidemment protéger par un système extrêmement solide et financé.
Pierre-Yves Bournazel, dans sa lettre, Emmanuel Macron dit qu'il pense d'abord à l'avenir de nos enfants et qu'il ne s'agit pas de ressasser la France de notre enfance. C'est une allusion claire à Éric Zemmour ?
Ah, je le crois, oui. Oui, nous sommes là pour préparer l'avenir. Nous sommes là pour construire le destin de notre pays. Nous sommes là pour permettre à nos enfants de pouvoir vivre dans notre pays en toute liberté, en toute sécurité, de pouvoir respirer dans notre planète. Et nous avons des défis majeurs qui nécessitent de se rassembler. Monsieur Zemmour, c'est un diviseur. Il distingue et trie les citoyens en fonction de ce qu'ils sont. Et c'est ça le nationalisme. C'est ce que nous avait enseigné François Mitterrand lors de son dernier discours. D'ailleurs, au Parlement européen de Strasbourg, en 1995, le nationalisme avait dit « c'est la guerre ». C'est ce que nous voyons d'ailleurs avec le nationalisme expansionniste de M. Poutine. Donc, nous devons amener un certain nombre de réponses très concrètes pour cela. Et éducation, recherche, enseignement supérieur, formation professionnelle, apprentissage, culture, accès à la culture pour toutes et tous, décloisonnons, c'est ce que nous avons fait avec le PASS, culture qui permet aujourd'hui à des dizaines et bientôt des centaines de milliers de jeunes de pouvoir bénéficier d'un pass culture pour accéder au cinéma, au théâtre, aux livres, par exemple. C'est ce que nous devons faire pour le sport, pour permettre à chacun, quel que soit son quartier, son origine, sa condition sociale, d'accéder à la pratique sportive, pratique individuelle, pratique collective, pour que chacun trouve son épanouissement dans la société. Nous devons savoir d'où nous venons. Nous sommes fiers de notre histoire, nous sommes fiers de notre patrimoine, nous sommes fiers de notre culture. Mais c'est l'avenir qui se joue. Et ce n'est pas en regardant dans le rétroviseur qu'on va répondre aux défis climatiques, aux défis de sécurité, aux défis de liberté, de défense de la démocratie, de notre pacte républicain. Et en tout cas, c'est pas en divisant les Français. Moi, je me battrai avec toutes celles et tous ceux qui se font une certaine idée de la République française et de la démocratie pour éviter de tomber dans l'extrémisme politique des radicalités qui sont extrêmement dangereuses pour la cohésion sociale et la cohésion nationale.
Alors le président Macron a encore grimpé dans les sondages, 29% d'intention de vote au premier tour, loin devant ses concurrents. Il a reçu le soutien de Martine Vassal, élu LR de Marseille, après celui de l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin. Et qui sont les électeurs d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Sont plutôt des Français de droite ou bien des déçus de la gauche? Qui sont-ils?
Ce sont des Français qui se font une certaine idée de l'avenir de leur pays et qui pensent qu'Emmanuel Macron, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait être de nouveau le chef d'État qu'il faut à la France, dans des circonstances extrêmement difficiles sur le plan international, européen et national. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes venus de la gauche comme de la droite. L'ADN d'Emmanuel Macron, c'est le dépassement des clivages stériles. C'est la voie du rassemblement. Moi, je viens d'une droite modérée, vous le savez, j'étais porte-parole d'Alain Juppé, très engagé aux côtés d'Édouard Philippe, et j'ai trouvé auprès d'Emmanuel Macron des hommes et des femmes venus de la gauche, des écologistes indépendants, des sociaux-démocrates. Nous partageons tant ensemble, tant sur une société ouverte qui refuse le nationalisme, qui refuse le sectarisme, qui refuse le racisme, la xénophobie, la haine de l'autre, qui se bat pour le pacte républicain, pour la vitalité démocratique, qui sont des éléments aujourd'hui qui sont attaqués. Nous battons sur l'école, enfin, on parlait tout à l'heure, nous battons sur l'efficacité économique, sur la cohésion sociale, la protection des plus vulnérables. Quand je me suis battu avec d'autres collègues, majorité ou opposition d'ailleurs, pour sanctionner les marchands de sommeil et réquisitionner leurs biens lorsqu'ils sont définitivement condamnés par la justice et remettre leurs biens au service des populations les plus vulnérables, c'est pas la gauche ou la droite, c'est du bon sens. Et c'est une politique sociale favorable à ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, notre seule boussole, ça doit être le service du pays. Et donc, je crois que les hommes et les femmes qui sont tentés par Emmanuel Macron viennent d'horizons différents. Et c'est très bien ainsi. Il faut rassembler et additionner des compétences et des talents. L'élection n'est pas jouée. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Et c'est pour ça que j'ai apprécié la démarche de candidature d'Emmanuel Macron. Il faut chercher à convaincre, à expliquer, à fédérer et à rassembler. Je pense que la force d'Emmanuel Macron, c'est sa solidité d'homme d'État, et surtout, l'élection, c'est une forme de comparaison. Et quand je regarde ses concurrents ou adversaires aujourd'hui, je note que beaucoup se sont trompés sur les crises, ils ont dit tout leur contraire sur la gestion de la crise sanitaire, ils disent tout leur contraire sur la crise internationale et notamment sur la guerre de la Russie à l'Ukraine. Et je pense qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui a quand même des atouts. Et j'entends beaucoup de mes concitoyens d'horizons politiques différents dire aujourd'hui sur le terrain, notamment dans ma circonscription, la 18e de Paris, heureusement qu'Emmanuel Macron a été à la tête de l'État dans ces circonstances difficiles.
Voilà. Dernière question, très rapidement, vous serez candidat pour un deuxième mandat dans la 18e circonscription de Paris?
C'est l'hypothèse, en tout cas la plus probable. C'est mon premier mandat de député. J'ai beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale, beaucoup travaillé sur le terrain. J'aime les gens, je suis à la rencontre de mes concitoyens chaque jour. Leur soutien m'encourage et je me prépare en tout cas à l'être. J'attends simplement que l'élection présidentielle se passe parce que une haie après les autres. D'abord la présidentielle, le service du pays, mon soutien en homme libre au président de la République Emmanuel Macron. Et demain, je me sens prêt en tout cas à me lancer. Si les citoyens de cette circonscription me faisaient de nouveau confiance, ce sera un immense honneur pour moi.
Merci Pierre-Yves Bournazel. Je rappelle que vous êtes député de Paris et co-président du groupe indépendant et progressiste au Conseil de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.